Les infos à Washington.
Au micro, Nani Talani, il est 16h en temps universel, 17h à Kinshasa. Bienvenue à ce journal. En RDC, plusieurs personnes ont été tuées ce mardi dans de nouvelles violences à Kinshasa, la capitale, où trois sièges de partis d'opposition ont été incendiés dans la nuit après les affrontements mortels d'hier en marge d'une manifestation réclamant la tenue d'une présidentielle d'ici la fin du mandat du président Kabila en décembre. Les sièges de l'Union pour la démocratie et le progrès social, premier parti de l'opposition à l'Assemblée nationale, des forces novatrices pour l'Union et la solidarité et puis le siège du mouvement lumumbiste progressiste ont été incendiés. Aujourd'hui, ces violences ont été suivies d'émeutes dans plusieurs quartiers, réprimées par des policiers renforcés par des soldats. L'opposition et le pouvoir se sont renvoyés la responsabilité des violences émaillées de pillages qui ont éclaté hier lundi dans la capitale et qui ont fait 50 morts selon le rassemblement de l'opposition et 17 selon les autorités. En Somalie, 5 millions de personnes, soit 40% de la population du pays, vivent en état d'insuffisance alimentaire. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui a appelé la communauté internationale à débloquer des fonds supplémentaires. Ce chiffre en hausse par rapport à février 2016 comprend 300 000 enfants âgés de moins de 5 ans qui sont en situation de malnutrition aiguë, dont 50 000 sévèrement sous-alimentés. Selon une étude menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, 1,1 million de Somaliens ne peuvent subvenir à leurs besoins quotidiens en nourriture et 3,9 millions ont besoin d'aide pour éviter de se retrouver dans la même situation. En Libye, 5 responsables des autorités parallèles, dont 4 officiers, ont été tués ce mardi dans le crash d'un hélicoptère dans l'est du pays, selon un communiqué du Parlement libyen rival au gouvernement d'Union nationale installé à Tripoli. L'hélicoptère se dirigeait vers Tobrouk après une mission officielle à Ras Lanouf, l'un des principaux terminaux pétroliers dans l'est du pays. Pour l'heure, les raisons du crash demeurent inconnues. Au Niger, le syndicat des magistrats brandit la menace d'une journée dite de justice morte pour protester contre les récentes nominations des présidents de la Cour des comptes et du Conseil d'État, deux postes confiés à des personnalités appartenant au parti au pouvoir. Ayouba Hassan, secrétaire général du syndicat des magistrats.
Comment peut-on parler d'indépendance, d'impartialité, de neutralité de la justice ? Lorsqu'on nomme un candidat malheureux aux élections législatives sous la bannière du principal parti au pouvoir, président de la plus haute juridiction devant laquelle sont notamment portés les recours du contentieux électoral en matière d'élections locales. Comment peut-on encore parler d'impartialité et de neutralité de la justice lorsqu'on nomme une personnalité ayant occupé les fonctions de directeur de cabinet du président de la République et surtout de ministre des Finances à la tête de la plus haute juridiction chargé de contrôler les finances publiques et de juger les comptes de l'État.
Ayouba Hassan, secrétaire général du syndicat des magistrats au Niger, où l'État verse chaque mois plus de 3 milliards de francs CFA à 2565 enseignants fictifs dans 5 des 8 régions du pays. C'est ce qu'a révélé hier la HALCIA, l'organe gouvernemental de lutte contre la corruption. Ces enseignants sont composés de contractuels, 1917 qui n'existent pas du tout sur les listes officielles d'émargement et 648 qui figurent deux ou trois fois.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À la faveur de la 71e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le chef d'État burkinabé Roch Marc Christian Kabore a présidé une réunion de haut niveau sur l'initiative pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques dans le Sahel. Les discussions ont porté sur les politiques, stratégies et l'engagement des États pour atteindre cet objectif. À l'issue de la réunion, Jacques Aristide s'est entretenu avec le président Roch Marc Christian Kabore.
Au-delà du programme SWED qui est développé au Sahel, je voudrais simplement dire que d'autres pays qui ne participent pas à ce programme ont montré que la première des questions pour pouvoir effectivement investir dans la jeunesse et dans les femmes, c'est qu'il faut de la volonté politique. Et cette volonté politique, c'est une volonté qui doit venir des chefs d'État. Et c'est pour cela que j'ai pris l'engagement de soutenir le point de vue des jeunes, de pouvoir faire en sorte également que pour le prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu en 2017, le thème central, c'est la capture du gouvernement démocratique et investir dans la jeunesse. Et je crois que cela est important.
Les jeunes représentent une frange importante de la population africaine, un attrait notamment pour les groupes terroristes qui sévissent en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, votre pays en a été victime. Alors, que doivent faire les pays de la sous-région, plus particulièrement et plus généralement le reste de l'Afrique, pour empêcher que les jeunes tombent dans le piège terroriste?
Nous avons dit que le terreau du terrorisme, justement, c'est le chômage des jeunes. C'est pourquoi nous devons toujours investir dans l'éducation, dans la santé des jeunes, dans leur formation et dans leur insertion dans le développement de nos pays. Tant que cela ne sera pas atteint, nous aurons toujours justement le recrutement des groupes terroristes sur des jeunes qui sont désœuvrés et qui ne savent que faire. Tout comme ces jeunes qui traversent la mer tout le temps pour aller travailler dans les pays européens et qui malheureusement perdent la vie par centaines au cours de cette traversée. Donc notre responsabilité en tant que gouvernant est importante parce que cela signifie qu'il faut promouvoir le développement de notre pays, il faut faire en sorte de restructurer nos économies pour faire face à ce défi et faire en sorte également que les jeunes puissent être employés au développement de notre continent.
Une question à propos de l'Assemblée générale. Il y a donc la Syrie, les réfugiés, le terrorisme évidemment. Vous pensez que l'Afrique pourra faire entendre sa voix au cours de cette 71e Assemblée générale de l'ONU?
Nous sommes obligés de nous entendre. On est obligés d'écouter la voix de l'Afrique parce que, comme je l'ai dit, tant que nous n'allons pas régler correctement la question des migrants, il est évident que nous courons vers un danger important au niveau mondial. C'est pour cela que nous avons dit que nous devons non seulement au plan législatif travailler à ce qu'entre les différents pays nous puissions avoir une législation qui respecte la dignité du migrant. Parce que si nous continuons à développer la xénophobie, nous allons créer une crise très importante. Et c'est pour cela qu'avec ou sans nous, on est obligé d'écouter parce que de tout temps la migration a été quelque chose qui s'est fait dans le monde et il est important que maintenant nous en tenions compte, nous respections les migrants, nous permettions enfin à ce que cette migration puisse servir aussi bien au développement des pays où ils vont, mais également pour développer leur propre pays par le retour qu'ils vont faire en investissement chez eux.
Roch Marc Christian Kabore, le président burkinabé. Les dirigeants du monde entier vont se pencher aussi mercredi, donc demain, pour la première fois sur le problème des superbactéries résistantes aux antibiotiques qui rendent de plus en plus de maladies comme la tuberculose ou les maladies sexuellement transmissibles extrêmement difficiles à soigner. La réunion de haut niveau rassemblant des chefs de gouvernement et responsables de la santé de nombreux pays est prévue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU où les sujets de santé sont rarement abordés. Il devrait notamment s'engager à renforcer l'encadrement des antibiotiques, à mieux diffuser la connaissance sur ce phénomène et encourager les traitements alternatifs selon un texte qui devait être soumis aux responsables. Au Burundi, le gouvernement est responsable de graves violations des droits systématiques et constantes. C'est ce qu'a conclu ce mardi une mission d'enquête de l'ONU qui met en garde contre de possibles crimes contre l'humanité et un grand danger de génocide. Les experts ont constaté que des violations graves des droits de l'homme ont été et sont commises en toute impunité, principalement par des agents de l'État et ceux qui sont liés à eux. Mais ils déplorent l'approche du gouvernement qui consiste à nier automatiquement et en quasi-totalité ces allégations. Les enquêteurs demandent des procédures judiciaires internationales indépendantes pour traduire les auteurs présumés en justice. Les enquêteurs estiment aussi qu'on ne peut quantifier exactement toutes les violences perpétrées et qui continuent d'avoir lieu dans un contexte aussi fermé et répressif que celui du Burundi. Enfin, en Syrie, les combats ont repris de plus belle. Un raid meurtrier à l'ouest d'Alep a entraîné la suspension des convois d'aide de l'ONU au lendemain de la fin de la trêve, faute d'accord entre Washington et Moscou. Des frappes aériennes ont touché des camions d'aide humanitaire, faisant 21 morts, dont 20 civils. Et un membre du Croissant Rouge syrien. Les auteurs de l'attaque ne sont pas connus et le régime syrien et son allié russe ont nié avec force en être responsables. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal. Mais restez à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Pour la France des couleurs.